Chapitre 14. Emma reçut la lettre de son mari au moment du dîner dans leur appartement de la rue Thébault, toute seule. Farjol lui donnait les indications nécessaires pour l'aller voir à Mazas. La lettre était courte et finissait par ces mots « Je t'embrasse ma chérie et je te recommande surtout de n'avoir pas trop de chagrin ». Emma la posa sur la table, puis elle mangea son potage par petites cuillères, distraitement, les sourcils froncés. La bonne derrière elle la servait avec une figure indifférente. Elle n'avait pas déjeuné. Le matin, après le départ de Farjol, quand elle se vit en chemise dans la chambre, elle eut froid, s'enveloppa d'un peignoir et ses larmes, causées par la brusque secousse de la séparation, s'arrêtèrent. Alors elle fut stupéfaite de la rapidité de cet événement. On ne conduit les gens en prison que pour des crimes ou des vols. Il était impossible que Farjol eût volé, lui, dont tout le monde vantait la conduite sérieuse dans les affaires. Combien de fois avait-elle entendu faire l'éloge de son mari? D'après ses vagues explications, elle devinait bien que Farjol, ayant joué l'argent du commandant à la bourse, l'avait perdu. Ça, c'était un malheur, une déveine, une affaire manquée, mais Emma ne pouvait comprendre qu'il y eût là-dedans un délit quelconque, un vol. Il a bien perdu notre argent en même temps. C'est donc une mauvaise affaire qu'il a faite, voilà tout. Pourtant, on ne vous met pas en prison pour une mauvaise affaire. Il y avait autre chose, évidemment. Quoi ? Elle ne tarderait pas à le savoir, puisque Farjol lui écrirait. Sortir, à 9 heures du matin, c'est de la folie, et puis, voir qui, quoi dire, quelle démarche tenter dans cette circonstance qui restait pour elle mystérieuse et inexplicable. Elle attendrait les nouvelles chez elle, sans bouger. Emma enleva son peignoir et se recoucha. La chaleur douce du lit l'envahit, et elle se remit à pleurer. Elle murmura. « Que se passe-t-il donc, mon Dieu, et lui, où est-il maintenant ?» Elle sonna la bonne. « Les journaux sont-ils là ?»« Oui, madame. » Elle y jeta un coup d'œil, machinalement. Peu à peu, elle s'assoupit. Son sommeil fut agité et un cauchemar la réveilla. La bonne rentra dans la chambre. « Madame, le juge de paix vient mettre les scellés. » Emma se leva, continuant à ne rien comprendre. Le juge de paix la salua et lui dit « Nous allons mettre les scellés. Voulez-vous être constituée gardienne ?» Elle répondit « Je veux bien, sans savoir. » Le magistrat lui expliqua ce que cela voulait dire. Une inquiétude la saisit. Emma assista à la formalité judiciaire de la pose des scellés et vit que l'on plaçait des bandes de papier au hasard sur les meubles. Elle demanda au juge de paix pourquoi son mari était en prison. Le magistrat lui répondit qu'il l'ignorait et que ça ne le regardait pas. Elle resta jusqu'à 4 heures de l'après-midi, errant dans l'appartement, attendant, les idées tout à fait brouillées. Les porteurs de journaux du soir crièrent sur les fenêtres. Elle envoya la bonne chercher un numéro. Aux dernières nouvelles, elle lut « Le directeur d'un journal financier, la Bourse indépendante, M. Farjol, a été arrêté ce matin et écroué au dépôt. » Rien de plus, une ligne insignifiante pour ce gros événement qui l'a bouleversé. Alors elle devina que leur situation était perdue, quoi qu'il arrivât. Elle voulut lire d'autres journaux du soir, tout annonçait l'arrestation dans un coin de leur première page, sèchement. Un seul disait sévèrement « Un faiseur de dupes, comme il n'y en a que trop sur le pavé de Paris, etc. » Une plus grande tristesse s'empara d'elle. Elle n'éprouva aucune colère contre Farjol. Néanmoins, puisque c'était public, il fallait s'habiller et sortir. Elle irait voir Joséphine, une amie en réalité à qui elle pouvait se confier et demander un conseil. Joséphine demeurait complètement avec Moussac, avenue de l'Opéra. Elle se rangeait, ne vadrouillait plus, faisait des économies. Elle se montra charmante avec la patronne, et même des larmes lui vinrent aux yeux. « Un grand malheur » s'écria-t-elle. « Qui est-ce qui aurait cru ça de lui ?»« C'est de la déveine, ma pauvre Joséphine. Il n'est pas méchant, Farjol, ni malhonnête. »« Et puis, vous l'aimez, n'est-ce pas, patronne ?» Elle répondit. « Oui, beaucoup. » Joséphine continua. « Je vais vous accompagner au bureau de Moussac. Il vous donnera des nouvelles. Il doit savoir un tas de choses. » Elles se rendirent toutes les deux place de la Bourse. À la porte de la maison, Emma refusa de monter. « Non, je n'ose pas. »« Nous allons, dit Joséphine, aller au café, et nous le ferons appeler par un garçon. » Elles prirent des bocs. Joséphine écrivit un mot. Portez ça à côté chez Monsieur Moussac, il y a une réponse. » Le garçon revint bientôt. « Ce monsieur me suit. » Moussac apparut en souriant. Il fut surpris d'apercevoir Emma, la salua et, frappant avec sa canne, « Garçon, un boc !»«
Mon vieux, dit Joséphine, il s'agit d'être gracieux avec Emma. D'abord, explique-lui la situation. Cette malheureuse est affolée. »
Moussac reprit gravement. « Il y a de quoi. Farjol a commis là une bêtise impardonnable. C'est un véritable scandale à la bourse où il jouissait d'une bonne réputation. Mais cela ne vous touche en rien, madame. Certainement. »
« Il est perdu, n'est-ce pas ? » fit Emma.
« Oh, dans les affaires, il est perdu. On ne pardonne pas de pareilles stupidités. Quant à moi, j'ai été étonné.
Il va aller en prison ? » ?»«
Il y est déjà. Puis il passera en police correctionnelle. »
Il sera condamné?
Je le crois. Justement, on est très sévère aujourd'hui pour ces affaires-là.
À quoi peut-il être condamné?
Oh, peut-être à 6 mois de prison, peut-être plus, ou même moins. Ça dépendra des circonstances.
Il m'écrira.
Vous pourrez aller le voir, madame.
Emma le remercia et partit. Joséphine l'accompagna. Dans la rue, elle lui dit,
dînez avec moi, patronne, ce soir. Je vous en prie.
« Non, ma pauvre Joséphine, je préfère dîner seule. »
Joséphine hésita, puis dit, « Écoutez, j'espère que vous ne vous gênerez pas avec moi. Je ne connais pas votre situation, mais si vous avez besoin d'argent... »
Emma répondit, « Merci, j'en ai encore un peu. Plus tard, je ne dis pas. »
Lorsqu'en rentrant rue Thébout, la bonne lui tendit l'enveloppe sur laquelle elle reconnut l'écriture de Farjol, elle la décacheta avec anxiété, craignant d'y trouver des paroles de désespoir, des phrases pleines de sanglots. Après la lecture, Emma fut un peu rassurée et son énervement de la journée se calma. Farjol n'avait pas l'air de trop souffrir, il ne se plaignait pas trop amèrement. Le ton de la lettre était d'un homme résigné mais qui a confiance dans l'avenir.
« Le juge d'instruction a été très poli à mon égard, disait-il. Il voit la différence qui existe entre moi, qui ai eu de la guigne, et un filou vulgaire. »
Il ajoutait, plus loin, « Tu pourras venir me voir à Mazas chaque semaine, le jeudi ou le dimanche, pendant la durée de l'instruction, qui n'est pas très compliquée et qui ne sera pas longue. Il suffit de demander la permission au juge d'instruction. Je l'ai prévenu que j'étais marié. » En attendant, écris-moi par le retour du courrier, nous causerons de nos affaires de vive voix. Il lui recommandait aussi de ne tenter aucune démarche chez ses amis. Elle lui répondit, « Mon chéri, va, je ne t'en veux pas du malheur qui nous arrive, et je me fais plus de chagrin pour toi que pour moi. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu n'aies pas trop de peine. Je t'aime toujours, mon chéri. J'irai demain demander au juge d'instruction l'autorisation de te voir à Mazas. Tu m'expliqueras bien dans quelle position nous sommes, afin que nous puissions prendre un parti. On est venu mettre les scellés, ici et à ton bureau. Je suis triste d'être toute seule, mais je pense à toi et je t'aime bien. Je t'embrasse, mon petit chéri, ta femme, Emma. »
« C'est aujourd'hui jeudi, se dit Emma, j'aurai l'autorisation demain et je le verrai dimanche. »
Elle descendit mettre la lettre à la poste elle-même, afin que la bonne ne vît pas l'adresse « Prison de Mazas ». Au coin de la rue Thébout et du boulevard, elle crut reconnaître la tournure d'un monsieur qui parlait à un commissionnaire. Elle allait s'éloigner, mais le monsieur leva les yeux et leurs regards se croisèrent. C'était Paul Velard. Il fit un pas en avant. Elle qui, les rares fois où par hasard ils se rencontraient, feignait de ne pas le voir, fut prise cette fois d'une émotion soudaine et une seconde, instinctivement, s'arrêta. Alors Velard quitta le commissionnaire et se trouva devant elle. Il ôta son chapeau. Emma balbutia « Bonsoir, monsieur. » Velard, d'une voix timide, répondit « J'envoyais ce commissionnaire chez vous, madame, avec un mot. Tenez, le voici le mot. Ce n'est pas la peine de le lire maintenant. Je vous disais que j'étais entièrement à votre disposition et que si je pouvais vous être utile. » Tristement, elle dit « Je ne crois pas. Vous êtes bien gentil tout de même. » Elle lui tendit la main. « Il n'y a plus rien à faire. Farjol est en prison. Regardez. » Elle lui montra l'enveloppe, « Prison de Mazas », ajoutant, « Farjol m'a écrit qu'il serait à Mazas demain dans la journée, et de lui répondre là, il aura ma lettre en arrivant. »« Voulez-vous me permettre de vous accompagner jusqu'à la poste ?» dit Velard, « Nous causerons en route. » Elle y consentit et prit son bras sans le regarder.
J'ai des renseignements sur l'affaire de Farjol, continua Velard. En déjeunant ce matin au cercle, j'ai eu la nouvelle de son arrestation et le commandant m'a tout expliqué. Il est furieux, mais si on lui rendait son argent, il retirerait sa plainte et Farjol aurait de grandes chances de s'en tirer. Heureuse enfin d'avoir des détails précis, Emma l'interrogea encore. Après avoir mis la lettre à la poste, Velard la raccompagna jusqu'à la rue Thébault en faisant un long détour. En admettant, ce qui est d'ailleurs impossible, que nous trouvions l'argent du commandant, est-ce que Farjol sortirait de prison immédiatement ? Non, dit Velard, j'ai consulté un membre du cercle qui est avocat, mais si le commandant retirait sa plainte, Farjol pourrait passer en police correctionnelle parce que l'abus de confiance est avéré. Cela dépend du juge d'instruction. Par malheur, il est tombé sur Ardouin. Comment savez-vous cela ? Je vous dis, continua Velard, avec des intonations tendres dans la voix, que je me suis occupé de vous toute l'après-midi. Je suis allé au palais de justice. Je n'ai cessé de penser à vous. Elle fit merci en s'appuyant légèrement sur son bras. Par malheur, je le répète, il est tombé sur Ardouin, qui est très sévère et qui a été chargé depuis un an d'une dizaine d'affaires de ce genre, celles de Sélim, de Bachelard et de bien d'autres. Oui, Farjol m'a souvent parlé de ceux-là. Ils ont été condamnés avec une extrême rigueur. Ah, Sélim a 3 ans de prison, Bachelard a 5 le maximum. Oh mon Dieu, fit-elle. Mais rassurez-vous, c'était des affaires infiniment plus graves que celles de Farjol. Il y avait eu des centaines de plaintes déposées contre eux. Je crois que Farjol n'a contre lui que la plainte du commandant. Bah, il n'est pas malhonnête, mon mari, allez. Je le sais bien, reprit Velard. Il y a quelques années, on se serait contenté de le faire appeler au parquet, il aurait déposé une caution, et il aurait eu tout le temps d'aller s'arranger avec le commandant. Mais aujourd'hui, malheureusement, la justice est bien dure pour les affaires financières à cause de tous ces scandales. Cependant, si vous aviez l'argent de Barret, il retirerait sa plainte, Farjol serait presque sûrement acquitté en correctionnel avec un bon avocat. Il tourna ses yeux vers Emma. Écoutez, Emma, je vais vous dire des choses sérieuses. Je ne suis pas riche et je ne dispose pas de sommes considérables, quoique je gagne pas mal d'argent. J'ai de côté une 50 000 francs dont je n'ai pas besoin. Je les tiens à votre disposition. Je suppose, d'après ce que j'ai appris, qu'ils vous suffiront. Elle fut troublée et des larmes lui échappèrent sous sa voilette. Elle murmura. Ah, vous êtes gentil, allez, bien gentil, mon ami. Acceptez-vous? Il pourra sortir de prison, alors, Farjol. Oh, du moins, il n'y restera probablement que le temps de la prévention. Elle répéta. Oui, vous êtes bien gentil. C'est que je vous aime toujours, répondit Velard. Toujours, Emma, depuis. Oh, ne parlez plus de cela, fit-elle. Je vous adore, et j'ai aussi de l'affection pour Farjol. J'ai de l'affection aussi pour vous, moi, malgré tout, dit Emma. Ils arrivèrent à sa porte. Je rentre chez moi, mon ami, j'ai besoin de repos. Vous verrez Farjol dimanche, n'est-ce pas? Informez-vous du nom de son avocat, je vous donnerai l'argent et vous vous entendrez avec lui. Elle sonna. Encore un mot, Emma. Vous êtes seule maintenant et triste. Dînez avec moi demain, cela vous fera une distraction, et j'aurai peut-être du nouveau à vous apprendre. Elle fit, oui, si vous voulez. Je n'irai pas chez vous, je vous attendrai là, au coin, nous dînerons au restaurant. À demain, dites, à demain. Emma lui sourit et baissa la tête. Oh, j'ai espoir que tout s'arrangera, dit Velard, pendant que la porte se refermait. Velard avait hésité longtemps. Pour un garçon raisonnable qui gagne sa vie dans les affaires, c'est une importante résolution que de donner 50 000 francs à une femme. Il supposa que ses amis se moqueraient joliment de lui s'ils connaissaient une pareille folie et que peut-être même les clients perdraient de leur confiance. La folie était d'autant plus grande que cette femme, il avait été son amant, il l'avait possédée bien des fois. Ainsi, pour revoir une ancienne maîtresse, il allait dépenser, dilapider 50 billets de 1000. Il considéra cela comme une de ces actions héroïques, de ces dévouements sublimes auxquels vous pousse un invincible amour, et il s'enorgueillit. Jusqu'à présent, ses caprices ne lui avaient pas coûté cher. Il avait plutôt la réputation d'un homme serré et excessivement pratique dans toutes les questions d'argent. Il savait faire bonne contenance lorsque des femmes lui reprochaient sa parcimonie. Vers la 20e année, sa figure, imberbée fraîche, son air gamin, lui valurent des succès. Une horizontale célèbre s'éprit de lui un soir après souper, et il resta plusieurs mois avec elle. Il ne gagnait pas un sou à cette époque et débutait sur le pavé de Paris. Son amie se montra délicate et maternelle. Velard conserva de cette liaison l'habitude de ne pas distribuer de l'argent aux femmes avec exagération. Ses maîtresses ne comptaient pas sur lui dans les circonstances difficiles. Sa veine dans les affaires ne le rendit pas dépensier. Il avait en outre du bonheur au jeu, et les 50 000 francs d'Emma constituaient les deux tiers à peu près de ses économies. Il se décida à les perdre pour la posséder encore. Depuis la scène de la rue Clément Marot, le souvenir d'Emma l'obsédait. Rien n'avait pu faire disparaître l'impression de ces heures où il la serrait éperdument entre ses bras. Il ne se couchait pas une nuit dans son lit sans se rappeler qu'elle avait été étendue à son côté, sans revoir la façon dont elle se déshabillait. Elle se déshabillait lentement, rangeait avec soin ses jupons et sa robe. Jamais elle ne voulut qu'il l'aidât, et lui permettait seulement de déboutonner ses bottines. Alors elle montait sur le lit en souriant. Après 6 mois, les moindres détails revenaient troubler son esprit. Aucune autre femme ne put le divertir. Il chercha dans les cafés de nuit des filles qui ressemblaient vaguement à Emma et éprouva des désillusions. Il était horriblement jaloux d'elle. Il sut qu'elle rencontrait parfois le tourneur chez des amis communs et, à la bourse, il entendit le banquier parler d'elle dans les termes les plus chaleureux. Sans savoir exactement pourquoi, il était spécialement jaloux de le tourneur. Il se souvenait que, dès les premiers jours, son attitude vis-à-vis d'Emma l'exaspérait. Généralement, le tourneur se montrait avec les femmes assez impertinent et, à l'occasion même, grossier. Il n'avait pas de maîtresse régulière, se contentant de caprices passagers pour des figurantes ou des écuyères qu'il payait très cher. Avec Emma, au contraire, il était d'une galanterie méticuleuse. Il lui faisait des compliments. Velard croyait qu'elle lui plaisait. Certes, il n'y avait aucune raison pour qu'Emma cédât jamais à un homme de plus de 50 ans, ni beau, ni élégant, quelconque, excessivement riche, voilà tout. En réalité, ce qui l'horripilait surtout chez le tourneur, c'était sa richesse. Que ne peut-on faire quand on a tant d'argent? Ce fut la première idée qui lui vint au bruit de l'arrestation de Farjol. Pourvu qu'elle ne s'adresse pas à le tourneur. Parbleu, oui, le tourneur lui donnerait l'argent. Il le sentait, mais à quel prix? Il se dit, je le lui donnerai, moi. Je ne veux pas qu'elle ait affaire à celui-là. Il me dégoûte trop. À la table du cercle, on jugea de manière très diverse l'événement de la journée. D'Artaud, le journaliste entièrement au courant, répandit la nouvelle le premier à midi. Les convives ordinaires, Brasier, le commandant, Velard et quelques autres s'apprêtaient à déjeuner. À midi précis, D'Artaud arriva. « Eh bien, vous ne savez pas la grande nouvelle ?»« Non, quoi ? Vous ne savez rien ?»« Mais on vous dit que non, dépêchez-vous !» D'Artaud, fier que personne ne sût un événement avant lui, scanda ces mots. « Le bon Farjol a été arrêté ce matin à 8 heures pour une foule d'escroqueries. C'est un des rédacteurs du journal qui l'a appris à la préfecture. Vous lirez ça ce soir aux dernières nouvelles. » Brasier et le commandant se regardèrent sans rien comprendre. Les autres convives jetèrent des exclamations et le maître d'hôtel n'hésita pas à s'approcher de la table, saisi d'une grande curiosité. « Oh, par exemple, Farjol arrêté, êtes-vous sûr ?» « Absolument certain. C'est inouï, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, on parle d'un pouf énorme, de sommes perdues à la bourse, de chèques faux, d'un tas de saletés. » Le commandant crut devoir protester. « Vous exagérez, D'Artaud. » Brasier, à son tour, prit la parole. « D'Artaud exagère énormément. Je vous conseille de ne pas mettre ces blagues-là dans votre journal. » « Vous êtes peut-être mieux informé que moi, vous, Brasier, » fit D'Artaud, ironiquement. « Pour sûr, cher enfant, pour sûr !» reprit Brasier, qui se délectait. « Étonnant, ce Brasier. Farjol a été arrêté à 8 heures du matin, on vous l'a peut-être dit, à 8h15. Plutôt encore, admirable, à 8h05 ?»« Raillez, spirituel jeune homme, je connais votre nouvelle depuis 8 jours. »« Ah non, celle-là, elle est forte !» Brasier, froidement, ajouta, « Oui, mon cher, le commandant et moi connaissions cette nouvelle depuis 8 jours. Si nous ne l'avons pas dit, c'est que nous sommes des gens discrets, n'est-ce pas, commandant ?
Discret toujours, fit le commandant, visiblement ému. Mais puisqu'il a été arrêté ce matin ?
Il a été arrêté ce matin, fit Brasier, sur une plainte qu'a déposée contre lui le commandant il y a une semaine environ.
Le commandant se vit tout de suite entouré et raconta la pénible histoire du système de D'Alembert avec une mythe déconfite. Il fut vivement félicité pour son énergie, mais il n'en tira pas vanité. Au contraire, il se contenta de dire « Il est bien dur pour un ancien militaire qui a joué toute sa vie au baccarat d'être obligé de cesser, à mon âge ». La conduite de Brasier à l'égard d'un camarade tombé dans le malheur était correcte, tandis qu'au cercle, on commençait à considérer Farjol comme un simple escroc, lui le défendait. Avec la confiance que Farjol inspirait à tous ses clients, il aurait pu faire un pouf 20 fois plus considérable. Je trouve même qu'il a été relativement honnête dans cette circonstance. Oh, ce Brasier! Je ne dis pas qu'il a commis une action d'éclat, mais enfin, nous serrons tous les jours la main à des gens qui ont fait 100 fois pis et qui sont encore en liberté. Je ne veux nommer personne. Immédiatement, on cita plusieurs noms autour de lui.
Oh, je soutiens que Farjol est au moins aussi honnête que ceux-là.
Oh, il y a du vrai, oui, dans ce que dit Brasier, fit quelqu'un. Farjol a eu de la guigne.
Frasier se rendit au bureau de l'informé pour s'entretenir avec Vérunia du fait du jour.
Vérunia étala d'abord sa sympathie pour Farjol.
« Ah, c'était un très bon garçon, et il y a des moments où je regrette de ne pas lui avoir prêté les 50 000. »«
Il n'est pas trop tard, » fit Brasier.
« Oh, voyons entre nous, Brasier, tu connais Moussac, n'est-ce pas? Tu es même très lié avec lui, et moi aussi. Eh bien, qui aimerais-tu mieux voir à Mazas, Moussac ou Farjol ?»«
Enfant de me poser une pareille question.
Tu aimerais mieux y voir Moussac, évidemment. »
« Ce plaisir, dit Brasier, nous sera peut-être réservé pour nos vieux jours.
Il est beaucoup plus malin que Farjol, Moussac.
Tiens, sans ça, Farjol se mit à rire.
Il a dû faire une bonne tête, Farjol, quand on l'a arrêté. Tu sais qu'on l'a arrêté à 8 heures du matin, dans son lit, comme un criminel.
C'est dégoûtant, fit Brasier, on n'a plus aucun égard pour la finance.
Iras-tu le voir à Mazas, toi, dit Brasier.
Crois-tu que ça lui ferait bien plaisir ?
Écoute-moi bien, Brasier. Je prends des informations sur son affaire et s'il suffit de lui prêter 50 000 francs pour le tirer d'embarras, ma parole d'honneur, je les lui prêterai, peut-être.
Ah, tu es une grande âme, Vérunia.
Vérunia eut un accès de gaieté sincère et bruyante.
Farjol, le retour de Mazas sera étonnant et je crois qu'il m'amusera beaucoup.
Ah, ça, ce pauvre Farjol. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle devient?
« Je ne suis jamais inquiet pour les femmes, » déclara Brasier sentencieusement.
« Maintenant, continua Vérunia, tu vas m'aider dans un travail délicat. Il s'agit d'annoncer l'arrestation de Farjol dans l'informé d'une façon convenable. Je compte sur ton tact. »
Il s'assit à son bureau. « Rédigeons la note à nous deux. »
À ce moment, Moussac entra dans le cabinet de Vérunia et on le pria de collaborer.
Moussac n'avait pas, au sujet de l'arrestation de Farjol, les idées légères et sympathiques de ses amis. Il approuva le parquet en tout point.
« Je trouve qu'on n'est même pas assez sévère. On devrait traiter ces gens-là comme des bandits.
Moi, objecta Brasier, je suis pour l'indulgence.
Puisque vous n'êtes pas dans les affaires, il faut qu'un homme d'affaires n'ait rien à se reprocher.
Bien, Moussac, bien, voilà qui est parlé, dit Vérunia.
Attention, j'écris, vous me reprendrez. »
Vérunia n'avait pas de prétention littéraire et n'écrivait jamais une ligne dans son journal. Il jugeait les articles sévèrement et les déclarait souvent idiots. Pourtant, il rédigeait les réclames avec un certain goût. Il traça quelques mots qu'il lisait tout haut au fur et à mesure. « Notre excellent confrère, Monsieur Farjol, a été arrêté hier matin. »
« Non, je me trompe, dit-il en éclatant de rire. Cette note-là, c'est s'il avait été décoré de la Légion d'honneur. »
Brasier fut content. Moussac, au contraire, qui visait secrètement la croix et faisait des démarches depuis 5 ans, n'aimait pas les plaisanteries sur la Légion d'honneur. Il haussa les épaules.
« Ce n'est pas assez fort, » murmura-t-il.
« Bon, soyons sérieux, » reprit Vérunia. « Que dites-vous de ceci ? Un Parisien, bien connu dans le monde des cercles et de la bourse, Monsieur Farjol ?»
Moussac désapprouva encore. «
Bien connu, Farjol n'était pas bien connu. »
Monsieur, monsieur, dit Brasier, je prétends que Farjol était un homme bien connu. Il allait à toutes les premières, à preuve qu'il y allait dans votre loge ou dans celle de Vérunia. Vous ne nierez pas que vous lui prêtiez votre loge. Je le regrette. Vous n'avez qu'à chercher dans la collection de l'informé. Remarquez parmi les assistants, messieurs Moussac, Farjol, etc., etc. Moussac fit une grimace. Moi, je mettrai tout simplement le directeur de la Bourse indépendante, un de ces journaux financiers fondés pour faire des dupes. Brasier protesta. Allons donc, ce n'est pas vrai. Farjol était un garçon très sérieux. Je vous révélerai même un détail, Moussac, qui vous surprendra. Farjol n'a eu qu'une plainte contre lui, c'est celle du commandant. Et encore, sur les 80 000 francs du commandant, il n'en a mangé que 50 000. « Il a peut-être laissé le reste dans sa caisse, » dit ironiquement Moussac. « Justement, mon cher, il l'a offert au commandant. »« Comme c'est malin, » dit Moussac, « il y a vraiment de quoi l'admirer. » Brasier s'adressa à Vérunia. « Lève-toi, je vais rédiger la note, moi. » Il écrivit « Le directeur du journal financier La Bourse indépendante, M. Farjol, a été provisoirement mis en état d'arrestation. Une instruction a été ouverte. M. Farjol était un Parisien bien connu dans le monde des cercles et de la Bourse où il comptait de nombreuses sympathies. Ah, voilà qui est gentil, convenable et qui ne dépasse pas la mesure. » Vérunia s'extasia sur cette rédaction qui fut adoptée malgré les protestations de Moussac.